Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition enregistrée dans l'amphithéâtre de Sciences Po à Grenoble à l'occasion des 5e journées internationales sur le Moyen-Orient. Regard sur la tempête géopolitique qui souffle dans la péninsule arabique. Le style saoudien est en train de changer. Riyad semble plus déterminé que jamais à freiner l'hégémonie de Téhéran dans la région. Laquelle région est l'une des plus militarisées au monde? La guerre de moins en moins froide entre l'Iran et l'Arabie saoudite peut-elle dégénérer? Et qui a intérêt à ce que la situation s'envenime? Pour en discuter, nos invités, Fatih Adazieni, politologue, spécialiste de la péninsule arabique, chercheur Golfe Moyen-Orient à l'IRSEM, auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier, L'Arabie Saoudite en 100 questions, paru aux éditions Talendier. Bonjour. Laurence Louer, politologue, spécialiste du monde arabo-musulman, professeur associé à Sciences Po et chercheuse au CERI, également auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier « Sunnites et chiites, histoire politique d'une discorde » paru aux éditions du Seuil. Bonjour.
Bonjour.
Mourad Chabi, enseignant-chercheur, membre du Centre d'études et de recherche de diplomatie, d'administration publique et de politique de l'IEP Grenoble, chercheur associé à l'IRSEM. Bonjour.
Bonjour.
Et pour cette édition donc enregistrée à Grenoble, la participation des étudiants en master Méditerranée Moyen-Orient de Sciences Po Grenoble. Je pose la première question. Où en est la crise du Golfe aujourd'hui? Elle a démarré pour mémoire en juin 2017, reflétant les tensions anciennes entre le Qatar et ses voisins. L'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis reprochent à Doha son soutien aux frères musulmans et son rapprochement avec Téhéran. La crise a suscité l'embarras des pays occidentaux qui coopèrent avec toutes les parties. Une escalade militaire est-elle probable et qui a intérêt à ce que la situation s'envenime? Qui souhaite répondre? Laurence Louer.
Une escalade militaire, non, je le vois pas. Je vois plutôt une crise qui se poursuit, qui s'embourbe peut-être. Donc je pense pas à une sortie de crise sur le court terme, mais plutôt à des négociations qui vont continuer. Mais un conflit militaire, non, je l'envisage pas du tout.
Fatih Adazieni.
Oui, je partage parfaitement le point de vue de Laurence. Il n'a jamais été question, je pense, de confrontation militaire avec le Qatar. Bon, il faut savoir que le Qatar abrite la base militaire américaine la plus importante de la région, donc ce serait quand même assez cocasse. En revanche, cette volonté absolument d'imposer au Qatar le fait que le Qatar stoppe sa diplomatie alternative. Voilà, c'est... très clairement, cette volonté quasi d'humilier un partenaire qui est devenu un adversaire. Et c'est vraiment ce qui se profile dans cette crise qui dure depuis 6 mois et qui risque de durer encore, parce que les tensions entre monarques sont telles que maintenant on arrive à une situation d'ego et de celui qui ne perdra pas la face, etc. C'est sur des questions quasi d'égo que les choses sont en train de s'embourber, parce qu'on ne sait même plus ce qui est reproché au Qatar. Hein. On avait reproché au Qatar son soutien et son financement au terrorisme, sa relation très forte avec l'Iran. Mais les deux pays qui ont les relations les plus importantes avec l'Iran, c'est Oman et le Koweït. Donc pourquoi reprocher ça au Qatar? Financement du terrorisme... C'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité, hein, parce que quand on sait que c'est l'Arabie Saoudite qui accuse le Qatar de financer certains groupes qui ont des relations troubles, notamment sur le terrain syrien, on sait très bien que Bandar bin Sultan a été très clairement l'ancien super espion saoudien avait mis tout en place pour que l'Arabie Saoudite et quand même des relations avec certains groupes à la frange quand même du djihadisme, notamment à Tripoli, des groupes salafito-djihadistes. Aujourd'hui, apparemment, Abu Dhabi souhaiterait que le Qatar n'organise plus la Coupe du Monde 2022. Donc, c'est très clairement une volonté de mettre à genoux le Qatar, de le faire plier et de lui imposer de rentrer dans la ligne tel que les Émirats et Riyad le souhaitent.
Et de l'isoler, Mourad Chabi.
À mon avis, je pense qu'on assiste réellement là à une volonté de la part de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis de remettre le Qatar dans le rang. On a deux niveaux d'analyse. Première analyse au niveau du Conseil de coopération du Golfe. Qatar essayant de jouer sa carte diplomatique et politique et de puissance, de soft power, à sa manière, l'Arabie Saoudite appuyé en cela par les Émirats Arabes Unis, même je dirais les Émirats Arabes Unis appuyés en cela par l'Arabie Saoudite, tape du poing sur la table. Et dans un second niveau, plus au niveau régional, on assiste à une Arabie Saoudite qui tend à communiquer et à lever, entre guillemets, en masse, à la fois un ensemble d'États musulmans contre une menace qu'elle prétendument iranienne, dans un souci de véritable, en l'occurrence dans un souci réel de guerre froide au niveau régional face à la République islamique d'Iran.
Théo Blanc.
Alors dans cette crise du Qatar, le nouvel homme fort saoudien, Mohamed Ben Salman, semble avoir joué un rôle prépondérant. Et donc je voudrais qu'on regarde maintenant la situation interne en Arabie Saoudite. On a eu cette ascension fulgurante de Mohamed Ben Salman, qui est prince héritier depuis juin 2017, qui mène récemment une campagne de purge contre des personnalités et des opposants saoudiens, officiellement au nom d'une lutte contre la corruption. Donc ma question est simple, est-ce que c'est effectivement une campagne anticorruption ou c'est une campagne de consolidation de son pouvoir?
Qui souhaite répondre? Laurence Louer.
Peut-être juste un commentaire général sur le fait que dans les États autoritaires, il y a souvent des campagnes anticorruption et c'est toujours un moyen de renouveler les élites. Les Russes sont les champions de l'anticorruption. Singapour aussi. Donc je
les
crois
Chinois
que
également.
Voilà,
la Chine,
ça relève clairement de la même logique. Le prince se débarrasse d'adversaires, de rivaux, et il coopte de nouveaux alliés.
Fatia Desieni.
Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est pas un cas unique. Hein. Le Xi Jinping, le président chinois, il y a eu cette spectaculaire lutte contre la corruption, et ça lui a permis de s'affirmer vraiment comme l'homme fort du Parti communiste chinois et donc de recoopter même au sein de ce parti. On a exactement le même phénomène en Arabie Saoudite, même si effectivement les cas de corruption sont avérés, hein, parce que mais c'est pas très compliqué, parce que si vous voulez, la corruption est endémique au système saoudien et au système des monarchies du Golfe, hein, et donc tous ces réseaux princiers et réseaux d'affaires effectivement avaient construit leur fortune personnelle et d'affaires via effectivement des contrats d'affaires privilégiés, etc. Donc il n'est pas très compliqué de prouver qu'il y a eu trafic d'influence, enrichissement personnel, etc., etc. Mais il est évident que c'est une tactique pour consolider son pouvoir personnel, bien sûr, et coopter une nouvelle clientèle, effectivement.
Mourad Chabi.
Dans cette prise de contrôle de Mohamed Ben Sultan, il y a eu deux années pendant lesquelles il a tenté ici et là de consolider son pouvoir. Cela a commencé par la prise en main du ministère de la Défense, puis ensuite d'une partie du pouvoir économique, pour arriver au bout des deux années à devenir le successeur. Clairement, dans cette stratégie-là, bien évidemment, il y a cette volonté de nettoyer, de reconstruire à partir de bases saines qui seront celles que le MBS aura mises en place. Clairement ici, on est dans une volonté au travers par exemple des personnes qui ont été arrêtées dernièrement. Quand on regarde un peu le profil des personnes qui ont été arrêtées, il y a une réelle volonté de prise de contrôle et j'ai lu aujourd'hui que en échange d'un milliard de dollars, normalement, il y avait libération du prince Mithab qui devait normalement sortir. Donc on est ici à la fois dans une volonté d'affirmation du pouvoir, mais aussi de récupération de moyens financiers, pécuniaires et d'une... Et c'est à destination de la population saoudienne. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que il y a cette stratégie, cette politique à destination des opposants éventuels, mais il y a aussi cette stratégie à destination de la population, 70% des Saoudiens en moins de 25 ans. Il y a une réelle volonté ici de vendre, entre guillemets, cette lutte contre la corruption comme étant un début d'une nouvelle ère en Arabie Saoudite. Donc c'est un des éléments qu'il faut retenir.
Laurence Louer.
Oui, peut-être juste un petit commentaire sur la question des hommes d'affaires. Je crois qu'il y a dans toutes les monarchies du Golfe une montée au sein de l'opinion publique d'un ressentiment vis-à-vis des hommes d'affaires et de cette classe marchande, cette oligarchie très proche des familles royales, parce qu'il y a un chômage endémique dans plusieurs de ces pays. En Arabie Saoudite, c'est autour de 12%, les chiffres officiels, ce qui est énorme. Et donc, c'est très facile de se rendre populaire en sanctionnant, en fait, les très riches.
C'est populiste.
Théo Blanc, vous le souhaitiez
dans cette entreprise de consolidation du pouvoir par Mohamed Ben Salman, donc qui élimine ses opposants, on a l'impression aussi qu'il marginalise l'establishment religieux, qui a un pouvoir historique dans le pays, notamment en 2016 où il a retiré le droit à la police religieuse d'arrêter les contrevenants. Dans ce contexte-là, sur quel soutien Mohamed Ben Salman peut s'appuyer? Mourad Chabi, vous aviez évoqué la jeunesse. Est-ce que c'est le seul soutien de Ben Salman?
Par exemple,
Mourad Chabi.
Concrètement, au travers, par exemple, de l'autorisation donnée aux femmes de pouvoir accéder au stade, conduire les voitures, la possibilité aussi, dans les projets qui ont été lancés, la vision saoudienne pour 2030, donc une volonté concrètement de modernisation de cette société à destination des jeunes, mais aussi d'une opinion publique aussi qui voit concrètement la société civile, ces jeunes qui s'inquiètent pour la jeunesse saoudienne à venir, le manque d'employabilité, le manque d'ouverture politique et économique. Donc voilà, on est vraiment ici dans une volonté d'attirer vers soi un maximum de la population, quel qu'il soit. Et en direction de l'établissement religieux, il y a eu préalablement, bien évidemment, tout un ensemble de prises de contrôle, de positions de poste, de remplacement ici et là de princes pour affirmer son autoritarisme et son autorité sur cet établissement religieux qui, de toute façon, a toujours accompagné cette Arabie Saoudite.
Fatia Daziani.
Oui, non, il n'y a pas de marginalisation de l'establishment religieux. Il y a juste un recadrage. Et le fait que de retirer les prérogatives de contrôle de la police religieuse, c'est quelque chose de accepté massivement par la population. Donc c'est pas ça qui va, mettre en difficulté le prince. L'establishment religieux restera un pilier du pouvoir du prince. On n'imagine pas cela autrement. C'est un projet de construction de pouvoir d'une nation islamique, mais expurgé, si vous voulez, de cet obscurantisme et cet archaïsme wahhabite. Il le dit, on ne va pas continuer à s'embêter pendant 30 ans à nous embêter avec ces, enfin, il le disait à mot couvert, avec ces barbus qui nous emmerdent. Tout le monde le pense en Arabie Saoudite. En revanche, le fait que l'establishment religieux valide souvent les décisions du pouvoir, c'est fondamental, spécialement pour MBS qui s'est fait quand même beaucoup d'ennemis.
Marion Picard.
Moi, j'aimerais revenir sur ce facteur religieux. On entend beaucoup parler dans la région d'une opposition entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, notamment d'un axe chiite-sunnite. Mais est-ce qu'on n'aurait pas plutôt parlé d'une opposition plutôt entre les partisans d'une politique étrangère tournée vers l'islam politique, comme par exemple la Turquie, le Qatar ou l'Iran, et des pays qui sont plutôt opposés à cette politisation de l'islam, comme par exemple l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, qui sont notamment soutenus par les États-Unis.
Laurence Louer.
Oui, moi je trouve que c'est une idée intéressante. Je pense que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'opposition sunnite-chiite, mais en effet, c'est une perspective qui peut compléter. Moi, je crois plus qu'un facteur sunnite-chiite, d'ailleurs, c'est vraiment un choc entre deux puissances régionales, l'Arabie Saoudite et l'Iran, et il se trouve que ces deux puissances régionales prétendent défendre le vrai islam. Pour l'Arabie Saoudite, c'est une certaine version de l'islam sunnite. Pour l'Iran, c'est l'islam chiite. Et au fond, ce qui est derrière cette fracture entre sunnites et chiites qui se décline de différentes manières dans les différents États de la région, il y a des ambitions régionales et l'utilisation des identités religieuses comme outil de légitimation et comme idéologie d'État, si vous voulez.
Fatia Daziani, vous souhaitez rajouter quelque chose ou Mourad Chabi, ou on passe à la question suivante?
J'ai trouvé Fatia Daziani. La question et le statement de cette jeune fille tout à fait remarquable.
Louis Conrad.
Oui, alors j'aimerais revenir sur la crise régionale que traverse en ce moment le Golfe. avec notamment le rôle des États-Unis dans la crise entre les pays, les monarchies du Golfe et le Qatar. On a vu avec l'administration Trump un réalignement en fait sur la politique saoudienne jusqu'au boutiste anti-iranienne. Et les États-Unis aussi possèdent de grands intérêts stratégiques et militaires au Qatar. Je vais demander en fait quel rôle a les États-Unis dans une résolution de crise et si le poids allait plus se porter sur son allié saoudien ou son allié qatarien.
Alors juste en complément, on peut peut-être rappeler pour nos auditeurs que la première visite à l'étranger du président Donald Trump était l'Arabie Saoudite. Laurence Louer.
Oui, alors moi je pense que justement Donald Trump s'est mis dans une position de ne jouer aucun rôle dans une résolution éventuelle de conflit. Parce que d'une part, son administration est divisée, hein, puisque il y a absolument pas forcément de consensus. Trump et certains de ses conseillers, le secrétaire d'État en particulier, ne seraient pas tout à fait sur la même longueur d'onde. On l'a bien vu dans toute la question du rapprochement entre l'Arabie Saoudite et l'Irak, qui a eu lieu tout au long de cette année. Donc. Voilà, en fait, Trump, il est pris, alors dans la question spécifiquement du Qatar et de l'Arabie Saoudite, Trump, il est pris entre deux feux, parce qu'en fait, il s'agit de deux alliés qui souhaitent ménager, il a des intérêts vitaux, enfin, les États-Unis ont des intérêts communs avec les deux pays, donc il est dans un état d'indécision, si vous voulez. Ce qu'il souhaite, c'est ce que tout le monde souhaite, j'ai envie de dire, c'est que ça se résolve à l'amiable, si vous voulez.
Fatia Deziani, commentaire, un complément ?
Oui, on a vu à quel point son secrétaire d'État, Tillerson, et James Mattis, le ministre de la Défense, n'étaient pas du tout d'accord avec la position de Donald Trump concernant cette crise, parce qu'il a pris très clairement fait et cause pour les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite. Et je ne sais pas, est-ce que c'est un jeu dans cette administration qui fait que tout est neutralisé finalement, parce que aussitôt que ce président tweet avec ses tweets intempestifs, le lendemain vous avez des déclarations absolument contraires. Mais c'est la même chose pour la Corée du Nord, pour tout ce qu'il fait, hein, pour l'accord nucléaire sur l'Iran qu'il souhaite, comme il dit, détruire, parce que c'est le plus mauvais accord international qui n'ait jamais été conclu d'après lui. Et à chaque fois on a Tillerson et Mattis qui rament les malheureux et qui passent leur temps à le reprendre. Et donc, c'est vrai qu'on assiste à une sorte de neutralisation de la diplomatie américaine qui fait qu'elle n'a aucun rôle, finalement, dans la résolution des crises.
Mais tout de même, cette visite de Donald Trump à Riyad, c'est à... le président américain a posé un acte, Mourad Chebbi.
Alors, j'irai un peu plus loin en disant qu'on est là dans une neutralité active des États-Unis en direction de ces deux alliés. Et à la fois cet équilibrage au travers des annonces diplomatiques par tweet par les uns et les autres de l'administration américaine font justement que cette diplomatie devient incompréhensible et déroutante. Et d'un autre côté, on est là face à deux alliés des États-Unis qui sont très importants. Pour le Qatar, vous avez la base d'Al Obeid avec 11 000 hommes et le CENTCOM basé. L'Arabie Saoudite est devenu le principal acheteur d'armes des États-Unis. Il est l'allié stratégique depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et les deux représentent justement des États vers lesquels l'administration américaine n'a pas intérêt, ne voudrait pas de toute façon décider. Donc c'est un exercice d'équilibriste assez périlleux, et justement cette administration, malheureusement, dans cette diplomatie du tweet, fait qu'on ne comprend plus rien et qu'on est un peu perdu, et qu'entre déclarations des uns et des autres, on a du mal à percevoir la réalité. Mais au final, on est concrètement dans cette neutralité active des États-Unis, et qui dit neutralité active dans cette région du monde dit un peu d'effacement. Effacement au profit de qui ? Au profit d'autres acteurs, pardon, qu'ils soient régionaux ou bien un peu moins globaux, mais plus régionaux.
Alors, diplomatie du tweet et imprévisibilité côté américain, c'est avec cela qu'on va terminer cette première partie d'émission. Géopolitique, nous retrouvons nos invités, Fatia Deziani, Laurence Louer, Mourad Chebbi et les étudiants en Master 2 Méditerranée, Moyen-Orient de Sciences Po Grenoble dans quelques instants.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique depuis Sciences Po à Grenoble, à l'occasion des 5e journées internationales sur le Moyen-Orient, nous retrouvons nos invités. Fatih Adesieni, politologue, spécialiste de la péninsule arabique, chercheur Golfe Moyen-Orient à l'IRSEM, auteur de plusieurs ouvrages, le dernier, l'Arabie Saoudite en 100 questions aux éditions Talendier. Laurence Louer, politologue, spécialiste du monde arabo-musulman, professeure associée à Sciences Po et chercheuse au CERI, également auteur de plusieurs ouvrages, le dernier, Sunnites et chiites, histoire politique d'une discorde, paru aux éditions du Seuil. Et Mourad Chabi, enseignant-chercheur, membre du Centre d'études et de recherche de diplomatie d'administration publique et de politique de l'IEP Grenoble, également chercheur associé à l'IRSEM et avec nous pour poser des questions, les étudiants en master Méditerranée et Moyen-Orient de Sciences Po Grenoble. Je passe la parole à Tom Kranz.
Bonjour. Donc on assiste depuis les années 90 à une influence iranienne forte à Dubaï qui se caractérise notamment par une coordination dans le domaine de la culture, des investissements et une mobilité importante. Je me demandais si on assiste à une intensification dans les années à venir de cette plus ou moins relation entre les deux, donc entre Dubaï et l'Iran, est-ce que ça ne remettrait pas en cause à terme le processus de convergence et d'entente entre Ben Zayed et Ben Salman?
Alors qui souhaite répondre Fatih Adesieni.
Oui, la relation Iran-Émirats Arabes Unis, c'est vrai qu'elle est historiquement très, très importante à Dubaï. Il y a près de 500 000 Iraniens à Dubaï. Non, moi je pense qu'il y a un jeu d'équilibre au sein de la fédération, justement, entre Abu Dhabi et Dubaï. Et c'est un petit peu aussi, entre guillemets, la diplomatie sournoise des Émirats Arabes Unis, finalement, de parvenir toujours à finalement avoir un tremplin, avoir une sortie de crise, parce que plus Abu Dhabi surenchérit sur la menace iranienne, plus Dubaï continue à commercer allègrement avec l'Iran. Quand c'est l'Arabie Saoudite qui, au contraire, surenchérit au niveau de sa tension avec l'Iran, l'Arabie prend plein pot, finalement. D'ailleurs, on l'a bien vu. Quand il y a eu, janvier 2016, vous vous souvenez de la condamnation à mort de Cheikh Nimr al-Nimr, et qui a occasionné donc des protestations, saccage de l'ambassade et du consulat saoudien en Iran. L'Arabie Saoudite et l'Iran ont interrompu leurs relations diplomatiques, et donc l'Arabie a demandé à ce que cette mesure de rétorsion soit suivie dans le Golfe. Le Bahreïn, évidemment, qui est le pays depuis 2011 satellisé par l'Arabie Saoudite, a évidemment suivi. Les Émirats Arabes Unis ont juste rappelé leur chargé d'affaires. Ils se sont gardés de rompre leur relation. Donc ça vous donne un petit peu la tonalité de ce qui se passe à ce niveau.
Laurence Louer.
Oui, enfin, je crois qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quand même pas mal d'Émiratis qui sont d'origine iranienne, à la fois des sunnites et des chiites, qui jouent un rôle plutôt important dans le secteur privé ou dans ce secteur semi-public ou semi-privé qui est contrôlé par quelques grands princes de la famille royale. Et donc, en fait, le grand paradoxe de ces relations entre l'Iran et les Émirats Arabes Unis, c'est qu'au fond, il y a un contentieux territorial. Il y a les trois îlots de Abu Moussa et les deux îlots de Toum qui ont été occupés par le Shah, donc du temps de la monarchie, avant la République islamique, qui a jeté un froid dans les relations, mais en même temps, sur le plan commercial et économique, les échanges n'ont jamais cessé d'être extrêmement importants. Et c'est très très important pour l'économie de Dubaï aussi, mais des Émirats Arabes Unis aussi. Donc en fait, il y a cette espèce de paradoxe entre une rhétorique, d'ailleurs, qui peut être très dure, même dans les années 90, de la part des Émiratis vis-à-vis de l'Iran, sur un mode nationaliste, rendez-nous ces territoires qui nous appartiennent, et en même temps, ils ont notamment traîné énormément des pieds pour mettre en œuvre les sanctions internationales contre l'Iran dans le cadre des non-négociations en fait à l'époque sur le dossier nucléaire ou des négociations qui achoppaient, parce que c'est vraiment important pour les Émirats Arabes Unis en général et Dubaï en particulier de maintenir ces échanges commerciaux.
Soufiane Sadki.
Oui, moi j'aimerais profiter maintenant qu'on parle un peu des relations irano-saoudiennes. J'aimerais en fait revenir sur l'alliance de principe, l'alliance tacite qui s'établit en fait entre l'Arabie Saoudite et Israël et qui s'oriente contre le Hezbollah et l'Iran. Alors on imagine que l'Iran et le Hezbollah ne se priveront pas de dénoncer cette incohérence entre l'Arabie Saoudite et l'Iran et de ne se priveront pas aussi de désigner en quelque sorte les dirigeants saoudiens comme des traîtres à la cause musulmane entre guillemets. Donc j'aimerais savoir si cette liaison dangereuse avec Israël qui renforce la position saoudienne auprès des États-Unis. En revanche, n'affaiblit pas le discours anti-chiite porté par le régime saoudien qui permet de mobiliser sa population et de compromettre le régime saoudien vis-à-vis de son opinion publique et plus largement vis-à-vis de l'opinion publique dans le monde arabe.
Mourad Chabi.
Alors vous avez raison dans un sens, tout simplement parce qu'on assiste à une convergence d'intérêts partagés entre Israël et l'Arabie Saoudite. Israël percevant la principale menace régionale, comme il y en a deux concrètement, comme étant le Hezbollah, considéré comme le proxy de la République islamique d'Iran, qui d'ailleurs a gagné en expérience sur le terrain syrien. Depuis les affrontements qui ont vu le Hezbollah et Israël en découdre, l'armée israélienne a construit notamment sa stratégie militaire dans l'éventualité d'une prochaine guerre, et justement la révolution syrienne a vu de nombreux combattants du Hezbollah aller sur le terrain syrien en appui des forces Al-Quds, des Pasdaran iraniens, des brigades chiites irakiennes. Ils se sont aguerris, le Hezbollah a perdu beaucoup d'hommes aussi, et la crainte d'Israël, ce serait éventuellement un retour de ces combattants du Hezbollah aguerris, ayant connu l'expérience du combat face à une armée conventionnelle là, revenir au Liban, le poids politique justement du Hezbollah au Liban, on a pu le voir au travers des différentes actualités qui ont eu lieu ces derniers temps. Et là vous avez également la République islamique d'Iran avec son programme balistique, l'arrêt pour l'instant entre guillemets dans le cadre de l'accord sur nucléaire depuis 2015 de son programme nucléaire, mais qui dit programme nucléaire dit une frontière très floue et très poreuse entre le nucléaire militaire et civil, c'est la crainte que soulèvent les Israéliens. Et d'un autre côté, l'Arabie Saoudite qui est dans une volonté d'annihiler, entre guillemets, d'affaiblir la République islamique d'Iran en désignant et en montrant du doigt l'Iran comme étant l'ennemi, mais cette fois-ci de la communauté sunnite dans son ensemble, en désignant et en le soulevant ici et là les questions de les rhétoriques religieuses, sunnites contre chiites. Et d'ailleurs, la formation de la dernière coalition armée, regroupant au début en 2015 34 pays et aujourd'hui 40 pays, ne voit pas l'invitation de pays arabes à majorité chiite, la Syrie, l'Irak, et le Qatar d'ailleurs en a été exclu. Et là, on a la volonté de l'Arabie Saoudite de former une coalition arabo-musulmane sunnite contre un ennemi désigné, tout simplement parce que l'Arabie Saoudite se perçoit en tant que gardien des lieux saints face à un Iran chiite qui est velléitaire et qui veut une domination régionale.
Martin Chave.
Alors justement, sur cette opposition entre Iran et Arabie Saoudite, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une sorte de paranoïa de Riyad qui voit constamment, qui se sent constamment entouré de chiites et de proxys iraniens en fait? Et notamment en fait dans la crise du Yémen, avec cette idée que peut-être cette paranoïa serait poussée tellement loin qu'elle aurait peut-être donné naissance à des prophéties autoréalisatrices, avec l'idée que peut-être Téhéran au départ ne soutenait pas la rébellion houthiste. Mais à force que Riyad propose cet argument, finalement les Iraniens se sont dit effectivement c'est peut-être un terrain sur lequel il faut aussi qu'on aille.
Laurence Louer pour commencer.
Je crois que l'Iran se comporte comme une puissance opportuniste. Partout où il y a des occasions à saisir, ils les saisissent. Donc, voilà, l'Irak, c'était vraiment l'aubaine. Hein. C'est pas eux qui ont déboulonné Saddam Hussein, c'est leur pire ennemi, les Américains, qui leur ont offert l'Irak. D'accord ? La guerre civile en Syrie, c'est une autre opportunité. En plus, c'était très important pour eux. Ça, c'est vraiment un intérêt vital du régime iranien de maintenir le régime de Bachar al-Assad, car c'est un allié extrêmement important. Le conflit yéménite, c'était trop beau pour pas saisir l'occasion, si vous voulez. Donc, d'autant plus que certainement pour les Iraniens, avec un investissement minimal auprès des Houthis, ils peuvent récupérer énormément de gains sur le plan symbolique. Et en fait, tout le jeu des Iraniens, c'est aussi de faire croire qu'ils sont plus puissants qu'ils ne le sont. Vous voyez, et c'est vrai que quand vous parlez de paranoïa saoudienne, je suis assez d'accord avec le terme. Je pense qu'ils voient beaucoup de choses qui n'existent pas, mais qui finissent aussi par se réaliser. Et donc, tout à fait d'accord avec cette idée de prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire que les perceptions de la menace, même si elles sont erronées, finissent par créer des effets de réalité sur le terrain. Et donc, probablement, l'engagement dès 2009 d'ailleurs des Saoudiens dans le conflit civil yéménite, hein, puisque les Houthis sont en conflit avec le gouvernement de Sanaa depuis 2004 en fait, hein, donc c'est un conflit qui dure depuis longtemps. En 2009, les Saoudiens font une première intervention militaire, ont poussé certainement les Iraniens à s'engager bien plus avant dans le conflit civil yéménite, et ce qui a poussé aussi les Houthis à se chiitiser. Hein, dans un contexte où le zaïdisme yéménite, en fait, depuis le XVIIIe siècle, s'est sunnisé. s'est rapproché énormément du sunnisme. Et donc, en fait, ce conflit et la perception de ce conflit par des acteurs puissants comme étant un conflit confessionnel entre sunnites et chiites a des effets sur l'identité religieuse d'au moins une partie des zaïdites.
Je vais poursuivre avant de passer la parole. On évoque beaucoup l'idée que la guerre au Yémen devait précisément avoir pour objectif de démontrer la capacité de l'Arabie Saoudite à refouler le rôle de l'Iran dans la région. Est-ce que finalement, ça n'est pas le contraire qui s'est produit, Laurence Weir?
Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Les Saoudiens voulaient montrer qu'ils sont une puissance militaire qui peut régler les problèmes avec la manière forte. Malheureusement, ils sont en train d'échouer dans une guerre qui est en plus extrêmement impopulaire en Arabie Saoudite et qui intervient dans un contexte de mesures d'austérité quand même, qui fait que la population se demande aussi pourquoi dépenser tant d'argent dans ce conflit.
Mourad Chabi, Fatia Desiani. Oui.
Il y a la paranoïa effectivement, mais il y a aussi, enfin, quand le conflit contre le Yémen a été lancé en mars 2015, le pouvoir saoudien a vendu à sa population le fait que l'Iran était à sa frontière. Et c'est quelque chose qui marchait parfaitement à l'époque, hein. Donc au départ, même si aujourd'hui le conflit effectivement est assez, c'est pas qu'il est impopulaire, c'est qu'il est pas compris, il est extrêmement coûteux, c'est quelque chose dont on parle absolument pas en Arabie Saoudite, le conflit au Yémen, mais il a été vendu vraiment par les leaders comme une menace imminente d'un nouvel imamat comme ça chiitisé à la frontière de l'Arabie Saoudite. Et au départ, ce conflit a été parfaitement approuvé par la population. Alors, 3 ans après, effectivement, la population déchante, se rend compte que les résultats n'y sont pas, qu'on leur demande effectivement des sacrifices, puisqu'on leur fait payer des taxes, ce qu'ils n'avaient jamais fait auparavant, et qu'à côté de ça, ce conflit est ruineux. Sans compter, bien sûr, évidemment, le désastre humanitaire occasionné au Yémen. Parce qu'en plus de ça, le Yémen et l'Arabie Saoudite, enfin, vous ne faites aucune différence entre la population yéménite et le sud du royaume saoudien. C'est la même population. Là, on est vraiment face à une impasse. D'ailleurs, moi, j'ai pour habitude de dire, non, l'Arabie Saoudite n'est pas une puissance régionale. C'est un pays qui est très riche, qui a des moyens, mais qui n'a pas de stratégie profonde comme l'Iran en a. L'Iran est une vraie puissance régionale, avec des atouts, avec une stratégie, avec une patience stratégique à la chinoise, alors que les Saoudiens ne font que des coups. Et malheureusement, des coups qui ne marchent pas vraiment.
Mourad Chabi.
En appui de ce qui a été dit précédemment, je repartirai à partir de 2003 et ce que l'on a pu appeler la chute des deux murs sunnites, en l'occurrence lors de l'intervention américaine en Afghanistan en 2001 et 2002 et ensuite la chute de Saddam Hussein. Ces deux murs sunnites étaient une sorte, entre guillemets, de contrôle, en l'occurrence, dans cette stratégie du dual containment des États-Unis en direction de l'Irak. Et une fois que, justement, l'Irak de Saddam Hussein et l'Afghanistan se sont effondrés, les régimes se sont effondrés, la République islamique d'Iran a mis en place sa politique et sa diplomatie pragmatique dans le temps long. Alors que, lorsque l'on regarde un peu la diplomatie de l'Arabie Saoudite actuelle, on a vraiment l'impression d'une fuite en avant. Une fuite en avant à la fois au niveau déjà interne, comme on l'avait vu, mais aussi au niveau régional. Et on est là vraiment dans un manque d'analyse profonde de la stratégie saoudienne à moyen long terme. Et qui plus est, les ressources de l'Arabie Saoudite ne sont pas concrètement inépuisables. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison aussi que quand on a parlé de la privatisation partielle de l'Aramco, l'Arabie Saoudite n'a jamais voulu donner concrètement les chiffres réels de ses propres ressources. Certains experts, notamment dans BP et Chanel qui est sorti au mois de juin 2017, les ressources énergétiques, on évoque 25 à 30 années de réserve, d'autres 50. Et justement, ça pose le problème de la continuité de l'Arabie Saoudite avec des moyens autres que pétroliers.
Aramco, donc la compagnie pétrolière saoudienne. Hugo Mahut, la prochaine question, et ensuite ce sera Solène Coman, donc on va peut-être rassembler après ça les réponses, il nous reste malheureusement peu de temps. Hugo Mahut.
Bonsoir à toutes et à tous. Au vu des luttes menées par milices interposées entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, notamment en Syrie ou au Yémen, comme vous venez de nous le rappeler, est-ce que vous envisagez la possibilité d'un effet domino et donc d'une contagion qui entraînerait le retour d'un conflit confessionnel au Liban, et ce notamment au lendemain de l'épineuse affaire Sadr Hariri et à la veille des élections législatives de mai 2018 qui représentent un enjeu clé pour ces deux puissances régionales?
Qui souhaite répondre? Laurence Louer.
Le Liban, c'est toujours susceptible d'exploser, mais comme il y a eu une guerre il n'y a pas si longtemps que ça, et que les gens s'en souviennent, et que les gens ont compris ce que ça coûte et que la plupart des Libanais sont quand même d'accord sur l'idée qu'il faut maintenir le pacte confessionnel, qu'aucune confession ne peut l'emporter sur l'autre et que s'il y en a une qui tente de le faire, en l'occurrence les chiites, ça tournera mal. Le Hezbollah pense ça. Donc le Hezbollah est très vigilant à ne pas transformer, on va dire, sa puissance en une hégémonie totale sur le Liban. Je crois que son attitude durant la crise avec Saad Hariri l'a bien montré. Hein. Donc au fond, ils avaient trouvé un compromis et le Hezbollah voulait pas du tout que ce compromis soit brisé par les Saoudiens, en l'occurrence. Donc je crois que c'est ça qui explique encore pourquoi le Liban, jusqu'à aujourd'hui, il y a encore la paix civile.
Mourad Chabi, rapidement, et ensuite la question de Solène Kama.
Et encore une fois, dans cette diplomatie saoudienne, cette espèce de fuite en avant saoudienne en retenant Hariri contre son gré indirectement, a au contraire renforcé la volonté justement du peuple libanais, à justement vouloir s'extirper des éventuels dangers liés à cette confessionnalisation des conflits.
Solène Kama.
Oui, j'aimerais poursuivre sur la crise libanaise. On a vu que la France s'est saisie de ce sujet en semblant dérober Saad Hariri à un prétendu kidnapping opéré par les Saoudiens. J'aimerais avoir votre avis sur ce que cela dit de la stratégie française dans la péninsule arabique et surtout vis-à-vis de l'Arabie saoudite. Est-ce réellement une victoire diplomatique et peut-on maintenir un tel positionnement, enfin une telle ambiguïté dans le positionnement?
Alors, question pour Fatia Daziani.
Oui, je ne sais pas si elle est pour moi, mais bon, le kidnapping, vous allez un peu fort. Il a été jugé comme saoudien. Il a la double nationalité, hein, Hariri. Et il a été donc embringué dans toutes ces affaires de corruption. Son groupe Saoudi OG, qui est le deuxième groupe BTP du royaume, est quasi en faillite et donc apparemment il aurait signé un gros chèque au prince héritier. Et c'est à ce titre, alors bien sûr avec un Saad Hariri complètement décrédibilisé, affaibli, les Saoudiens ont bien sûr exercé une pression extrême. On n'a jamais vu un premier ministre d'un pays souverain annoncer sa démission à partir d'un autre pays. Donc ça, comme l'a très bien dit tout à l'heure Mourad, c'est vrai que ça a eu un effet contre-productif. La France, qui est l'ancienne puissance mandataire, bien sûr, ne pouvait pas faire autrement que de réagir et d'essayer un petit peu de jouer les médiateurs. Alors on a très vite lancé Cocorico, Victoire, etc. Je sais pas, parce que quand même, il y a eu par le ministre des Affaires étrangères, Le Drian, et également le président Macron, des déclarations très fortes sur l'Iran quand même, hein. Suite à cela. Pour la première fois, on a entendu des officiels français parler d'hégémonie iranienne dans la région. Et ça, j'estime que ce n'est pas vraiment un échec, là, pour le coup, de MBS, sur ce plan-là.
Mourad Chabi, vous souhaitez compléter ?
Oui, et remettre en cause également le programme de missiles balistiques iraniens. Et la réponse de la République islamique d'Iran a été immédiate. La France n'a pas à s'immiscer dans les questions et les problématiques portant sur le balistique iranien.
Alors il y a une question qu'on n'a pas eu le temps de poser, c'était les conséquences de ces tensions entre le Qatar et ses voisins sur le Conseil de coopération du Golfe, lequel ne s'est pas prononcé du tout et à aucun moment sur ce qui se passait. Est-ce que ça veut dire que voilà, c'est la fin annoncée du Conseil de coopération du Golfe? Ce sera peut-être l'occasion d'une autre édition de Géopolitique. Merci d'abord aux étudiants en master Méditerranée Moyen-Orient de Sciences Po Grenoble. Merci à nos invités, Fatia Daziani, politologue, spécialiste de la péninsule arabique, chercheur Golfe Moyen-Orient à l'IRSEM et auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier, l'Arabie Saoudite en 100 questions, paru aux éditions Talendier. Laurence Louer, politologue, spécialiste du monde arabo-musulman, professeure associée à Sciences Po et chercheuse au CERI, également auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier, Sunnites et Chiites, histoire politique d'une discorde, paru aux éditions du Seuil, et Mourad Chabi, enseignant-chercheur, membre du Centre d'études et de recherche de diplomatie, d'administration publique et de politique de l'IEP Grenoble, et chercheur associé à l'IRSEM. Cette édition était donc enregistrée dans l'amphithéâtre de Sciences Po à Grenoble à l'occasion des 5e journées internationales sur le Moyen-Orient. Émission signée Marie-France Chatin et Manu Pochèze à Grenoble, Véronique Durand et Pauline Leduc à Paris.